La parole de Dieu, je vous invite à l'ouvrir dans Apocalypse chapitre 3. J'aimerais ce soir que nous puissions, en quelques mots, considérer un texte spécialement important. Vous allez me dire, mais toute la Bible est importante, bien sûr. Mais lorsque un texte ou une lettre est signée par le Seigneur Jésus lui-même, c'est que vraiment ça a une importance toute particulière. Alors, on va lire une de ces lettres, il y en a sept, on va en lire une, et on lira chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et aussi un collyre pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est certainement pas une lettre qui va nous accabler ce soir que j'aimerais vous commenter. Ce sera un mot important qui concerne toutes les églises de tous les temps. Puisqu'il est dit, même s'il s'adresse à l'église de Laodicée qui a été une église en Asie mineure, donc en Turquie actuelle, autrefois, du temps des apôtres du 1er siècle. Le texte termine en disant « Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises », pluriel. Ça veut dire que toute église de tous les temps a besoin d'entendre ou de réentendre ce message, cet appel, cette évaluation de la vie de l'église et de la vie de chacun d'entre nous qui est donné par le Seigneur lui-même. Le Seigneur se prend la peine de s'arrêter, de regarder l'église de Laodicée pour en faire un examen, pour en faire un constat, pour la passer un peu dans son regard, dans son scanner pour voir où elle en est. Peut-être que ce soir vous vous dites, mais oulala, si le Seigneur s'arrête sur ma vie pour voir où j'en suis, c'est perdu d'avance. Ça ne va pas être brillant. Je ne vais pas avoir beaucoup de points sur 10. Mais le Seigneur n'est pas un examinateur. Le Seigneur est un berger. Le Seigneur est quelqu'un qui nous aime. Et avez-vous remarqué le verset 19 qui nous dit « Je reprends et je corrige ceux que j'aime. Ceux que j'aime. Et le Seigneur nous aime. » Il n'a jamais cessé d'aimer l'Église et quelle que soit l'Église, même celle de Laodicée, où il y a bien des choses à redire, le Seigneur aime et il le dit spécifiquement à cette Église, « Je t'aime, c'est pourquoi je vais te corriger, c'est pourquoi je vais t'éduquer, c'est pourquoi je vais te parler avec vérité. » Avez-vous remarqué que le Seigneur glorifié se présente, comme dans chacune des sept lettres, il est dit qu'il se présente en tant que « Amen », le témoin fidèle et véritable. Quel privilège d'avoir un Dieu de vérité. La vérité est nécessaire à entendre pour qu'elle nous libère, pour qu'elle nous éclaire et qu'elle nous libère véritablement. Le Seigneur est venu avec la grâce et la vérité. Ce soir, il fait grâce, mais il dit aussi la vérité pour que nous soyons éclairés, que nous soyons au clair sur notre situation et que nous puissions ainsi être par la grâce de Dieu, corriger au travers de la repentance si nécessaire, et que nous puissions repartir avec quelque chose de nouveau. Car ce que le Seigneur promet, nous l'avons chanté tout à l'heure, il le fera car il en a la puissance. Il a la puissance pour toucher nos cœurs, mais aussi pour nous transformer. Il a la puissance pour nous parler, mais aussi pour nous relever si nous sommes par terre. Il a la puissance pour aujourd'hui nous secourir dans nos besoins. Il est le témoin fidèle et véritable. Non seulement il dit la vérité, mais il est la vérité. Donc il ne vient pas pour accuser, il vient non pas pour faire un procès, mais pour exhorter, avertir, corriger et mettre le doigt là où il y a le problème. Il faut dire que parfois, c'est quand je pense à quand on partait avec nos enfants quand ils étaient petites, au médecin pour voir quelque chose, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle cachait l'endroit de la douleur. L'enfant mettait la main là où ça faisait mal. Et puis, je me souviens d'une situation où notre fille était tombée. Et puis, elle s'est promenée pendant 2 heures avec sa main sur le genou. Elle avait tellement mal et personne ne pouvait regarder ce mal, ni toucher, ni même souffler dessus. Hein, puisque c'est le remède miracle quand on souffle sur la plaie. Tout à coup, ça va mieux. Mais nous avons l'habitude de cacher ce qui ne va pas, ce qui est blessé. Mais le Seigneur voudrait justement mettre le doigt sur cela, car il aime l'Église. Il aime l'Église, quel que soit son état, il aime l'Église. Il aime chaque Église, il aime chacune de ses Églises, car il a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je bâtirai mon Église. » Jésus a payé de son sang l'Église et il l'aime tellement qu'il va tout faire pour la présenter à son Père comme une épouse sans tache ni ride. Vêtue de vêtements blancs, une épouse debout, belle, préparée pour le jour des noces. Ça, c'est le Seigneur. Il va se donner de la peine. Il se donne toute la peine du monde pour te toucher, pour te transformer et te présenter à son Père, afin que tu fasses partie de ce grand jour qui viendra à l'improviste. Et c'est là qu'il faudra qu'il nous trouve dans le bon état d'esprit, dans la victoire, dans la pureté, dans la sainteté, en communion avec lui. Et c'est pour ça que l'Église, le Seigneur va secouer un peu cette Église de Laodicée qui, comme on va le voir, avec le temps, a dévié de la course. Elle a dévié de l'objectif. Elle a bien commencé, mais elle a dévié en cours de route. Elle a perdu un certain nombre de choses. Et le Seigneur ne peut pas nous laisser comme cela. Parce que le problème avec Laodicée, c'est qu'elle croyait que tout allait bien. Elle croyait en fait, elle était dans une illusion. Elle croyait que tout allait bien. Comme certains qui croient qu'aujourd'hui, le monde va très bien, ça roule, tout marche. Certains domaines sont en plein boom. L'économie fonctionne, il y a une croissance, il y a un développement, il y a des inventions et un progrès technologique et autres. Et on croit que ça va marcher, alors qu'il y a parfois une illusion gravissime. On n'est pas du tout conscient de l'état véritable. Mais le Seigneur, qui est celui qui est le véritable, le témoin fidèle, le Seigneur véritable vient mettre notre vie dans son scanner et il va nous dire, preuve à l'appui, en révélant l'invisible, où nous en sommes véritablement. Est-ce que nous sommes d'accord d'entendre un peu cela? Un médecin qui ne ferait que brouiller les radios ou les images des scanners, qui interpréterait en disant « mais ce n'est pas grave, je vois une tumeur, je vois une tache, je vois quelque chose qui n'est pas normal, mais ce n'est pas grave, on va laisser tomber ça ». Ce serait gravissime. Ce médecin, il mettrait sa profession en jeu et son honneur en jeu et il ne répondrait plus à la charte des médecins. Le Seigneur, en nous disant la vérité, veut trouver une Église qui accepte d'entendre la vérité, mais aussi d'être d'accord de changer ce qu'il faut changer. J'espère que ce soir, vous êtes de ceux-là. Moi aussi que je sois de celui-là. Laodicée, c'est une ville en Asie mineure. Enfin voilà, vous voyez un petit peu la Turquie où elle en est. Je n'ai pas pensé vous remettre une carte. Une ville antique, donc, elle était riche, une cité bancaire, tiens donc, un centre thermal en plus. D'ailleurs, pas très loin de là, il y a actuellement des sites touristiques où on peut se baigner avec de l'eau thermale chaude. Donc, il y a plusieurs sources d'eau chaude et l'eau subvenait aux besoins de la ville. Et chacun connaissait en fait la signification et l'appellation l'eau tiède, car dans les environs, il n'y avait pas vraiment de source potable, et à grands frais, on a fait venir des sources lointaines un canal, on a construit des canaux surélevés, donc sur terre, pour amener des canaux, pas d'irrigation, mais de conduite d'eau potable, pour amener l'eau sur environ 20 km depuis les sources jusqu'à la Odyssée. Et bien évidemment que cette eau, dans les canaux de l'époque, nous sommes donc du temps des Romains, si vous voyez le pont du Gard, eh bien vous avez ce genre de choses qui sont encore visibles aujourd'hui. Eh bien, l'eau, en étant en surface, à l'air libre, eh bien, elle a pris la température ambiante et elle était donc chaude, ou en tout cas tiède quand elle arrivait. Elle avait donc complètement perdu le goût de la fraîcheur. Et de ce fait, elle était imbuvable, pratiquement imbuvable. Donc il fallait la cuire, la laisser refroidir, etc., etc. Cette tiédeur de l'eau à l'Odyssée, Jésus va utiliser ça en disant l'image de l'Église, c'est comme ça. L'eau fraîche, avec le temps, devient de l'eau tiède, qui est imbuvable, même répugnante. C'est carrément une offense pour l'estomac. Et Jésus va clairement dire un mot qui se trouve que là dans la Bible, que je te vomirai de ma bouche. Mais qu'est-ce donc, spirituellement parlant, cette tiédeur? Qu'est-ce que ça veut dire, cette tiédeur? Qu'est-ce que ça veut dire, cette allégorie avec l'eau tiède de l'Odyssée et la tiédeur de la vie spirituelle de l'Odyssée? Qu'est-ce que c'est qui offense tellement Jésus qu'il ne peut pas supporter? C'est insupportable, c'est indigeste. Est-ce que c'est le péché de l'Odyssée? Est-ce que c'est une église remplie de péchés? Non. Pourquoi non? Parce que Jésus était tout le temps en contact avec les pécheurs. Ce n'est pas le péché qui le repousse. Il touchait, il mangeait avec les pécheurs, il les remettait en question, il leur parlait avec amour. Mais ce n'est pas le péché qui provoquait cette répulsion que nous voyons ici. C'est autre chose. Imaginez, vous êtes supporter d'une équipe de foot, de tennis, enfin de quelqu'un, vous êtes supporter d'un sportif ou d'une équipe sportive qui gagne. Et voilà que vous arrivez avec votre t-shirt, vos drapeaux, et vous êtes dans l'arène, vous êtes dans les tribunes pour supporter votre équipe. Allez, on va dire que c'est une équipe de foot. Et voilà que les joueurs, au lieu de courir, de se battre pour gagner, vous les voyez flâner tranquillement, ils ne se donnent aucune peine, personne ne court. Ou alors le match est tellement fade que les supporters sont en train de s'énerver, ils commencent à jeter leurs bouteilles, ils commencent à faire du scandale, et puis ils sont fâchés sur leurs joueurs qu'ils aiment, parce qu'ils sont tièdes. Il n'y a pas le feu, il n'y a pas cette envie de gagner, cette envie d'être bouillant pour le jeu, de se donner à fond. Parce que, bon, ils ont déjà des revenus assez importants, pourquoi encore se fatiguer? Et de toute façon, ils ont des produits dérivés, des sponsors, etc. Donc, ils peuvent gagner leur vie un peu autrement. Et personne n'irait voir un match avec une équipe pareille. Même dans le monde d'aujourd'hui, on attend d'une équipe qu'ils se donnent à fond pour quelque chose. Jésus, de la même manière, désire que nous nous donnions à fond pour remporter le prix de la victoire. Que nous puissions nous donner à fond pour la cause la plus noble de l'univers, la plus belle cause qui soit, que notre amour soit un amour passionné. Voudriez-vous vous marier avec quelqu'un qui est tiède, qui vous aime aujourd'hui un peu, demain pas du tout, après-demain elle est passionnée, après ça monte, ça descend. Voudriez-vous vous marier avec ce genre d'épouse ou de mari? Jésus, croyez-vous qu'il veut se marier avec quelqu'un qui est tiède? Mais ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il a fait pour nous à la croix du calvaire. Il attend de nous une véritable passion, un véritable feu, une motivation noble et pure et sainte qui est digne de ce qu'il a fait pour moi. C'est pourquoi il dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Si l'Église dévie, il faut que j'intervienne. Il faut qu'il y ait un électrochoc pour la réveiller, sinon elle va droit dans le mur, elle va droit dans la perdition. Le but de Jésus, je l'ai dit, c'est de préparer l'Église pour le jour qui viendra. Et la Bible nous dit, mes amis, et j'aimerais vous le rappeler ce soir, ce jour viendra comme un voleur à l'improviste. Quand personne n'y pense, l'Église sera enlevée. Ce jour-là, il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de surprises. Le monde dira, tiens, celui-là, celle-là a disparu. Et ce chrétien, ils sont toujours là. Comment ça se fait? On ne comprend plus rien. Ce jour-là, il y aura un tri qui sera fait. Mes amis, l'Église ce soir est devant un choix. Car un tri va se faire automatiquement, qu'on le veuille ou pas. Le Seigneur fait un tri. Il met la main sur des choses importantes, même si ça doit être un tout petit peu délicat et faire mal. C'est important pour mon chemin de salut. C'est important que je ne perde pas de vue ce à quoi je suis destiné. Une église est destinée à régner avec lui. C'est bien marqué que je le ferai asseoir avec moi sur le trône. Mes amis, ce n'est pas n'importe qui ira sur le trône. Ce sont des gens qui auront été lavés, purifiés par le sang de Jésus et qui sont restés jusqu'à la fin d'un cœur pur et bouillant pour le Seigneur. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais pas tiède, pas tiède, pas tiède. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le Seigneur parle dans ces termes, dans ces 7 lettres à l'Apocalypse. Nous les avons étudiées il y a quelques années dans les études bibliques où nous avons pris 2 heures de temps pour chaque lettre. Vous pourrez encore recevoir et trouver ces documents si vous le désirez. Déjà, la première église qui était une bonne église, l'église d'Éphèse, une très bonne église, qu'il y avait des œuvres, qui avait une persévérance, qui a souffert, qui a... Et là, le Seigneur dit, mais l'important, c'est que tu as perdu le premier amour. Je te rappelle ça. Tu es en mouvement dans ton programme d'église et dans ce programme, tu fais plein de choses qui sont bonnes, mais tu as perdu le cœur de la relation avec moi. Et c'est ce que le Seigneur veut dire aussi ici. À l'église, là aussi, tu as perdu le cœur de la relation avec moi. À tel point, que Jésus est hors de l'Église. Vous allez me dire, mais comment? Alors l'Église, si Jésus n'est plus dedans, alors l'Église n'est plus l'Église. Hein, Laodicée fonctionnait tellement bien. Ça roulait tellement, les programmes étaient tellement bien ficelés. Le programme était tellement étudié. L'entreprise Laodicée fonctionnait comme une machine huilée. Que Jésus était là ou pas là, ça fonctionnait pareil. Les messages avec l'appel et l'ambiance qui était mise pouvaient faire pleurer les foules entières à Laodicée. Et ça se faisait même sans Jésus et sans le Saint-Esprit. Il y avait quelque chose qui faisait que cette église fonctionnait, mais Jésus était dehors et il frappait à la porte. Mes amis, trouvez-vous pas que ce serait gravissime aujourd'hui d'avoir un fonctionnement d'église, d'être dans un magnifique bâtiment et d'avoir tout un programme extraordinaire qui répond même aux besoins des gens à divers niveaux et que finalement le Seigneur n'y est plus du tout. N'est-ce pas que ce serait grave? Mais le Seigneur, dans son amour, il dit, je frappe à la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui entend la voix du Saint-Esprit qui dit, j'aimerais prendre la place que j'avais autrefois dans ta vie? J'aimerais reprendre la place comme Laodicée était autrefois, où Jésus était au centre, où tout était centré sur Christ, où l'adoration était centrée sur lui, où on cherchait sa gloire et non pas autre chose, où on voulait l'honorer, où on voulait que des âmes soient gagnées, on voulait que des gens soient touchés, au lieu d'avoir tout un programme sophistiqué. Oh, je n'ai rien contre des programmes. Mais il faut que Jésus soit là au milieu, qu'il nous inspire, qu'il nous touche, qu'il puisse non seulement toucher nos cœurs, mais nous transformer. Il y a plein de choses qui peuvent nous toucher, mes amis, mais seul le Saint-Esprit nous transforme. Amen. Seul le Saint-Esprit peut transformer. Il peut changer un cœur de pierre en cœur de chair. Il peut nous libérer de nos addictions, nous libérer de nos mauvais fonctionnements, de notre mauvais caractère. Il peut changer ce que l'homme et aucun programme ne peut changer. Il peut le faire quand il est à l'intérieur de l'Église et à l'intérieur de nos vies, qu'il soit honoré comme il se doit, qu'il soit l'amen, le témoin véritable et fidèle. Il faut qu'il soit au centre de ma vie, au centre de ma vie. Mais là, dans cette Église qui avait si bien commencé, dans cette église qui avait si bien commencé et au début où il y avait même un certain succès, beaucoup de nouveaux, il y avait de la vie, une dynamique, il y avait des engagements de ministère, il y avait des réponses aux prières. Et puis avec le temps, c'est perdu les trois choses qui sont mentionnées, la vraie richesse. Parce que le Seigneur demande, demande-moi, viens chercher, viens acheter de l'or. La vraie richesse, qu'est-ce que c'est ? La présence de Dieu, la présence de Jésus dans une église, c'est ça la richesse. Une église sans Jésus, c'est une église pauvre. La vraie richesse, c'est sa présence. Les vêtements n'étaient plus propres. Achète-moi, viens que je te donne des vêtements parce que, en réalité, avec mon scanner et mon opinion sur toi, tu es bien habillé extérieurement, mais tu es nu spirituellement. Les vêtements, c'est le vêtement de la justice et de la sainteté. Mes amis, une église qui ne prêche plus la sainteté, qui accepte toutes sortes de compromis. Mes amis, croyez-vous que pour un pasteur, c'est facile de dire à quelqu'un, toi, tu ne vis pas en ordre à cause de ça, tu ne peux pas servir dans l'église. Vous croyez que c'est facile de dire ça? Moi, je le dis. Quand il faut le dire, il faut le dire. Il y a des gens qui quittent l'église à cause de ça. On m'a offensé, on m'a dit des vérités. Ici, je ne peux pas servir, mais j'irai dans l'église à côté, là, je peux servir. Ça ne me regarde pas. La sainteté et les vêtements propres sont des définitions de l'église qui sera enlevée. Une église qui est souillée par les compromis, la Bible dit clairement qu'elle aura des surprises. Non, ce n'est pas facile de vivre au standard de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous rend capables. C'est lui qui peut faire ce que je ne peux pas faire. C'est lui qui me sanctifie. Ce n'est pas mes œuvres et mes bonnes œuvres et mes bonnes façons de me tenir qui vont faire la sanctification. C'est la vie et l'obéissance au Saint-Esprit en moi qui va produire la sanctification, la sainteté. Je vais aimer ce que Dieu aime et je vais m'éloigner de ce que Dieu n'accepte pas. Est-ce que nous aimons ce que Dieu aime? Est-ce que je dis oui à ce que Dieu approuve? Est-ce que je prends position lorsque quelque chose ne plaît pas au Seigneur, dans ma vie ou dans ma famille? Est-ce que nous avons le courage de prendre position et de stopper certaines choses? De ne plus regarder certaines choses? De ne plus accepter un certain langage mauvais aussi au sein de nos familles? Frères et sœurs, il faut du courage, mais le Saint-Esprit vous donnera ce courage. Positionnez-vous pour que vos vêtements soient propres, que vous soyez revêtus. Et la troisième chose qu'elle a perdue, c'est cette pommade pour les yeux. L'église de la Odyssée, elle avait trouvé des stratégies pour gagner les gens. Elle avait, comme je l'ai dit, un super programme. Mais finalement, elle était aveugle sur elle-même. Elle ne voyait plus certaines choses. Il y avait besoin de regard extérieur, celui de Jésus, pour lui montrer qu'elle était aveugle. Elle avait perdu cette onction. Et cette indifférence l'a gagnée peu à peu. Cette insensibilité étant arrivée à petits pas. Ou encore, en réfléchissant sur cette église de la Odyssée, je me suis dit, peut-être finalement aussi, il y a eu des choses qui ont petit à petit dévié. Ils ont bien commencé, mais l'usure, la fatigue dans le service a fait qu'ils ont perdu ces choses. Ils ont perdu cette onction, ils ont perdu ce feu intérieur. Ils sont devenus tièdes, ils ont fait par devoir, par routine, par habitude. Il manquait un renouveau dans cette église, dans le service. Certains ont baissé les bras parce qu'ils étaient toujours les seuls à servir, les autres ne suivaient plus. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu, puis finalement ils ont aussi arrêté par lassitude et ils ont tout balancé finalement en devenant tièdes eux-mêmes. Ils ont perdu leur joie, ils ont perdu ce qui fait ce cœur bouillant. Frères et sœurs, le Saint-Esprit peut nous donner un cœur bouillant à tous. Et si ce soir quelqu'un a perdu ce feu sacré, il n'y a pas besoin de crier fort pour l'obtenir. Il faut juste venir le demander. Jésus dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je viendrai avec un repas. Il vient avec Jésus, quand il vient, il est à la porte, les bras chargés avec le repas. Vous allez peut-être dire, mais moi, Seigneur, je veux bien t'ouvrir la porte, mais j'ai rien, je suis vide. Seigneur dit, ne te fais pas de soucis. Moi, je viens avec le repas. Je vais dresser la table. tu vas t'asseoir avec moi et je vais te donner une vraie nourriture. Quand est-ce que pour la dernière fois, mon frère, ma sœur, est-ce que tu as vraiment mangé avec le Seigneur? Est-ce que tu as été rassasié par quelque chose, par sa présence, par son amour, par la présence extraordinaire du Seigneur? Et quand elle me manque, cette présence vivante du Seigneur, quelque temps, je ne suis pas bien, j'ai besoin de m'approcher, j'ai besoin de percer spirituellement un plafond, quelque chose pour retrouver ce feu, pour retrouver cette nourriture, cette plénitude, ce rassasiement, j'en ai besoin. Et vous, en avez-vous besoin? Répondez à cette question dans votre cœur ce soir. Je voudrais courtement voir avec vous les caractéristiques de cette tiédeur. Premièrement, la tiédeur ou le tiède, il a perdu contact avec la source. Souvenez-vous que la source d'eau fraîche était amenée par un canal à l'air libre jusque dans la ville de Laodicée. Donc, en parcourant cette distance, elle se réchauffait. Donc, l'eau qui arrivait n'était plus au contact avec la source. Le tiède, c'est ça. Il a perdu le contact avec la source. Dieu est la source. La présence de Dieu est la source. Il faut que je sois en contact avec la source. Si tu as perdu contact avec la source, ce n'est pas étonnant que la tiédeur te gagne. Et tu peux même avoir la source en toi-même. Tu n'as pas besoin de chercher, mais elle est où cette source? La source est en toi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, dit l'Écriture. La source peut être en toi. Par le Saint-Esprit, tu peux recevoir cette source. Elle va être implantée en toi par la puissance du Saint-Esprit, selon la promesse. Il le fera. Alléluia. Il le fera. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Certaines personnes se sont coupées de la source. Certaines choses n'aident pas à trouver la source. Je pense à des chrétiens qui disent, oui, mais je ne sais plus très bien. Je vais prendre du recul. Alors pour eux, prendre du recul, c'est quitter l'église, par exemple, ou arrêter de venir aux réunions de prière, arrêter à venir. Et ainsi, ils veulent évoluer autrement. Mais questionner ces chrétiens, pour voir s'ils ont vraiment grandi dans cette période où ils ont pris du recul. Questionnez-les un peu. Est-ce que tu as vraiment repris? Moi, j'aimerais vous dire, en restant en contact avec les réunions de prière, les études bibliques, avec les cultes, avec là où il se passe quelque chose, si vous restez en contact, vous restez aussi proche de la source et vous serez renouvelé. En prenant du recul, en vous éloignant, en venant que de temps en temps au culte ou aux réunions, vous allez voir qu'automatiquement, votre feu va baisser. Si vous avez une équation qui prouve le contraire de ce que je dis, venez me trouver. Je serai curieux de connaître quelle sera votre recette. La première chose qui est évidente, la tiédeur vient quand on est découpé, quand on est coupé de la source. Deuxième chose, une caractéristique évidente de la tiédeur, c'est que la tiédeur a perdu son énergie. L'eau tiède, elle a reçu de l'énergie d'abord pour être chaude, puis en se laissant refroidir, elle ne peut plus donner des calories. Elle ne peut plus donner grand-chose. De l'eau tiède n'a plus d'énergie à transmettre. De l'eau bouillante, elle transmet l'énergie, c'est chaud. Mais de l'eau tiède n'a pas d'énergie à donner. Le tiède n'a pas de force, n'a pas d'énergie. Très peu de ressources. Et cela me fait penser à Lot. Vous vous souvenez de Lot de la Bible, le neveu d'Abraham? Lot habitait dans un endroit où il n'était absolument pas ressourcé. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de croyants autour de lui. C'était qu'une ville en opposition à l'Éternel et à ses valeurs. Mais il habitait là au milieu. Et lorsque l'ange est venu en disant « Sodome et Gomorre vont être détruites, il faut que tu sortes », la Bible dit qu'il n'avait pas de force. Parce que lui-même était devenu tiède. Dans la présence d'Abraham, il était dans les montagnes avec Dieu, il était fortifié. En étant seul à Sodome, eh bien, il était déconnecté avec la source d'énergie, il était faible. Et lorsque l'ange va dire « Maintenant, tu me prends la main et je te tire hors de Sodome », pourquoi? Parce qu'Abraham était en train de prier pour lui. Il va le tirer dehors et puis l'ange va dire « Cours vers cette montagne !» Vous savez ce que la Bible dit? Lisez dans Genèse. « Mais je n'ai pas de force, la montagne est trop haute, je n'ai pas d'énergie, il est tiède. » Tandis qu'un Caleb, un Josué, vont parler tout différemment. Un Caleb va dire, cette montagne, Josué, tu me la donnes, je veux la prendre, mais Caleb, il y a des géants qui habitent là, c'est rien, je les prends parce que j'ai des forces. J'ai 85 ans, mais j'ai des forces. Ça, c'est le cœur du bouillant. Alors que Lot, qui était beaucoup plus jeune, n'avait pas d'énergie. Vous connaissez des personnes comme ça? Ils n'ont jamais d'énergie. C'est des piles déchargées. Hein? C'est comme votre téléphone, il est déchargé, toujours déchargé. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de jus, comme on dit. Cette énergie, frères et sœurs, représente la présence de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin d'être connecté à la source. Ne perdez pas votre énergie. Troisième point, le tiède a perdu contact avec la source. Il a perdu son énergie, son élan. Le tiède a perdu les limites. Vous savez, quand on est bouillant, on connaît les limites. On sait la frontière entre ce qui est péché et pas péché, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Mais quand on devient tiède, on ne sait plus très bien. On a franchi quelques lignes. On s'est dit, tiens, j'ai franchi la ligne du péché, puis c'est pas grave. Je ne suis pas mort. Après, on franchit un peu plus loin. Et finalement, on ne se sent pas si mal que ça. Un peu culpabilisé quand même, mais pas si mal que ça. Pour finir, on vient demander conseil. Tu peux nous dire, toi, chrétien tiède, tu peux me dire où est la limite? Écoutez, je ne sais pas trop bien, c'est à peu près entre ça et ça. Est-ce qu'on peut coucher ensemble avant d'être marié? La Bible dit rien, donc je ne sais pas très bien. C'est ça, le tiède. Il ne sait plus où sont les limites. Parce qu'il les a lui-même franchis plusieurs fois et il ne sait plus marquer les choses clairement. Il n'y a rien qui est clair pour lui. Tout est confus. Il a perdu les limites. La dernière chose, je termine par là. Le tiède n'est plus connecté. Il a perdu sa force. Il a perdu les limites entre le royaume de Dieu, le royaume du monde, entre le péché et la sainteté. Mais il a aussi perdu l'onction et le discernement. Il a un fonctionnement, mais pas de résultat ni de changement réel. L'église de Laodicée est devenue un bateau de plaisance au lieu d'être un bateau de sauvetage. L'église de Laodicée avait une force financière, mais une faiblesse spirituelle. Elle avait des activités qui brassaient, mais l'œuvre de Dieu ne se construisait quand même pas. Ils ont essayé de changer par des méthodes les cœurs, mais les cœurs sont restés les mêmes. Et le Seigneur dit... Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs et un collier pour oindre tes yeux, pour que tu retrouves ton onction que tu as perdue. Frères et sœurs, ce que je voulais vous transmettre ce soir, c'est que pour Jésus, la tiédeur est grave. La tiédeur nous met en danger. Jésus n'est plus là. Et il nous dit, si tu te sens un peu comme ça ce soir, comme Laodicée, le Seigneur te dit, je reprends et je corrige ceux que j'aime, je t'aime. Aie donc ce zèle, aie donc cette motivation ce soir pour te repentir. Peut-être que certains vont me dire, mais je n'ai pas fait attention, je n'ai rien fait de mal. Le Seigneur te dit, repends-toi. C'est la solution divine. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Dieu qui dit lui-même. Repends-toi, reconnais tes torts, reconnais ce qui n'a pas marché. Reconnais que tu n'es plus à l'endroit où tu devrais être. Reconnais que certaines choses ne sont plus à leur place. Certaines forces ont été perdues, certaines limites ont été perdues. La source n'est pas aussi proche. Et l'eau est devenue tiède dans ta vie. La vie s'est refroidie, la vie divine n'est plus aussi vaillante comme autrefois. Le Seigneur est à la porte, mais il n'entre pas de violence dans cette maison de ton cœur. La poignée de cette porte est à l'intérieur. C'est toi seul qui peux ouvrir en disant « Seigneur, viens ». Et le Seigneur va venir avec, comme je l'ai dit, les bras chargés pour un bon repas, pour une nourriture qui va te rassasier. Il va te donner la plénitude qui te manque ce soir, dans le nom de Jésus.